politique del país. Politique del país, le rendez-vous politique de Radio Transparence.
Les élections européennes du 9 juin qui se préparent d'ores et déjà, la campagne est lancée, vous le savez sans doute, et bien évidemment, les différentes listes vont tenter de prêcher la bonne parole, celle de, leurs idées, celle peut-être aussi de vous donner envie d'Europe. On sait que c'est pas toujours facile. On rappelle, scrutin à un tour, donc on peut pas se rattraper au second. Je crois 34 listes en lice au moment où, où on enregistre ces mots. Et quand même quelques valeurs sûres de la politique française, et notamment Europe Écologie Les Verts. On dit maintenant les écologistes, même si ELV n'est pas abandonné devant la pléthore, j'ai entendu ça, de listes écologiques. Juste, c'est bien de rappeler finalement quel est le courant écologiste, on va dire solide, dans ce pays. Les écologistes donc qui tiennent réunion publique, ce sera au Mas d'Asile ce samedi. Toute la réunion publique ou grande journée publique, hein, puisque ce sera toute l'après-midi et jusqu'en soirée. Liste des écolos menée par Marie Toussaint avec un Ariégeois dedans, c'est Christian Lamens. Il est avec nous. Bonjour Christian Lamens.
Bonjour.
Oui, c'était un moment fort de votre campagne en Ariège que ce samedi, au Mas d'Asile, un lancement, une façon de poser un peu les choses.
Voilà, oui, on a voulu avec le groupe local Ariège faire cet événement de campagne et faire venir en Ariège la problématique de l'Europe et porter nos idées qui sont, à mon avis, très, très fortes pour l'Europe. Et donc, on invite particulièrement deux candidats tête de liste, on va dire, avec Benoît Biteau, le paysan et déjà eurodéputé, et Priscilla Ludowski, qui est une des fondatrices et une des figures des Gilets jaunes, qui illustre bien notre travail sur deux jambes, à la fois l'environnement et à la fois le social.
Mmh. Christian Lamens, si je lis votre tract, je lis justement « Tout se joue en Europe », comme si finalement tous les sujets qui font débat, y compris dans la société française, vont chercher solution en Europe, hein, comme disait Nougaro avec la Garonne. Et pourtant, l'Europe paraît toujours très inaccessible, très incompréhensible et très finalement peu politique.
C'est vrai, et c'est vraiment un grand problème parce que les citoyennes et citoyens n'imaginent pas à quel point l'Europe influe sur leur vie quotidienne et aussi apporte des solutions vraiment à énormément de problèmes. Nous, les écologistes, nous sommes ce qu'on appelle fédéralistes, c'est-à-dire que nous pensons que nous pouvons passer à l'échelon européen pour régler pas mal de questions. Mais c'est un discours qui a du mal à imprimer, à la fois par méconnaissance des fonctionnements et à la fois au niveau de l'importance de ces élections, quoi.
Fédéraliste, ça veut dire, Christian Lamens, que quelque part on accepterait de déléguer une partie de notre souveraineté. Les États-Unis sont fédéralistes, les États y ont un rôle à jouer, mais il y a un État fédéral au-dessus d'eux. On a l'impression qu'aujourd'hui on est dans une situation un peu paradoxale dans la tête de l'électorat, et notamment français. On veut plus d'Europe, on veut la comprendre, on veut qu'elle soit politique, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit sociale, mais on n'est pas prêt à abandonner notre idée française au point de rejeter justement celles et ceux qui portent l'idée du fédéralisme.
C'est vrai. Il y a pas mal de questions, en fait, si on les regarde, qui ne peuvent se régler qu'au niveau de l'Europe. On parle, nous, de l'Europe sociale, par exemple. Si on veut empêcher la lutte de tous contre tous au niveau social, au niveau des conditions de travail, des rémunérations, etc., on est obligé, ce serait une bonne solution de créer des minima sociaux européens, par exemple. Il y a d'autres sujets concernant l'agriculture, par exemple. Il faut empêcher aussi la lutte de tous contre tous, des paysans des différents pays européens. Et si chacun y va de sa loi et si chacun y va de son fonctionnement, on ne se sort pas de cette lutte de tous contre tous, alors que l'Europe, c'est le bon échelon pour harmoniser tout ça.
Harmoniser, il y a eu des tentatives pendant le précédent mandat, un des sujets qui a beaucoup fait parler justement, et puis montré la dichotomie entre les États et l'Europe, c'est celle des pesticides et notamment du glyphosate. On l'a vu, il y a eu des allées, des retours, des avancées, des reculs, interdictions, moratoires. Mmh. Finalement, on abandonne tout avec la crise agricole du début de cette année. Ça laisse beaucoup de frustration aussi.
Oui, là, on est parfaitement dans l'illustration justement de ce côté nationaliste qui fait que chacun veut préserver son pré carré, mais qui finalement est au détriment de tout le monde. C'est-à-dire que toutes les lois européennes qui ont été prévues et portées essentiellement par le groupe Vert à l'Assemblée européenne, au Parlement européen, toutes ces lois qui visaient à faire diminuer, voire disparaître le glyphosate, mais on a un Macron en France qui, cédant au lobby industriel, parce que vous dites que c'est pour répondre à la crise agricole, mais pas du tout. Enfin, le glyphosate ne répond pas du tout à la crise agricole, au contraire, il l'amplifie.
Bon, on a vu que depuis la crise agricole, l'État français avait un peu revu sa copie quand même. Il avait réagi de cette façon-là. Je ne sais pas si c'était de bon aloi, mais en tout cas...
Disons que sous la pression, le gouvernement a pris quelques mesures qui sont de nature à satisfaire plus ou moins les agriculteurs, mais en fait, notamment ce recul sur le glyphosate ou sur les néonicotinoïdes dans le nord, sur la betterave par exemple, c'est des choses extrêmement nocives, extrêmement dangereuses et sont vraiment des reculs. Donc c'est là que l'Europe peut être protectrice parce qu'elle impose aux États et la même loi à tous les États, ce qui élimine la concurrence entre les différents pays, des normes environnementales qui sont bonnes pour tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'on critique les normes, mais les normes sont faites pour à la fois pour la santé des citoyens, pour ce qu'ils consomment, et aussi pour la santé des agriculteurs et des agricultrices qui s'empoisonnent en épandant ces produits.
Pour le coup, il faut une écologie forte pour porter ces sujets-là. À l'échelle européenne, Christian Lamens, on s'était dit il y a 5 ans, lors des élections 2019, ça y est, on y est. La liste écolo avait fait combien ? 16% ?
14%. Il y a 10 ans, 17%.
Amener 14 élus, on sait que les élections européennes sont des élections qui sont quelque part calibrées pour l'écologie. Pas assez, j'imagine, me répondrez-vous, mais quand même, ce sont vos meilleurs scores. En tout cas, jusqu'à maintenant, parce que si on regarde les sondages aujourd'hui, comme un coup de bascule, on a voté écolo il y a 5 ans, mais finalement aujourd'hui, les choses semblent très très différentes. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans ?
Il y a plusieurs choses, c'est une problématique assez complexe. Bon, en ce qui concerne les sondages, on a l'habitude de rappeler qu'à la même époque des élections, il y a 5 ans, Yannick Jadot était au même score que nous maintenant, c'est-à-dire plus ou moins 8%, et que sorti des urnes, on était à 14%. Donc le vote n'est pas du tout cristallisé, donc il ne faut pas trop se fixer là-dessus. Il y a aussi des phénomènes qui se passent. On connaît bien le problème de la montée de l'extrême droite qui a fait de l'écologie son ennemi principal et d'ailleurs dans beaucoup de partis. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est que le mur de l'effondrement s'avance vers nous et qu'il y a un déni global de la population, des élus politiques, etc. Tellement la marche est haute. On ne se rend pas compte qu'il est nécessaire de prendre des mesures absolument drastiques pour éviter cet effondrement. Ça fait peur. Et donc après, par ailleurs, on nous caricature sur le thème de l'écologie punitive, etc. Or, je voudrais rappeler que...
Mais ça, c'est pas que l'extrême droite. Justement, pour être allé voir les agriculteurs pendant le mouvement des agriculteurs, il y avait aussi ce regard-là. Si on écoute les élus du département, dès lors qu'il s'agit d'évoquer Montbel ou autre, on reparle de cette écologie punitive et on voit que le dialogue est totalement fermé entre vous, forces politiques, et...
Oui et non, c'est-à-dire que là, la séquence agricole, contre toute attente, a été très bonne pour nous, on le voit comme ça.
Vous trouvez ?
Oui, parce qu'on a pu exprimer vraiment nos avis. Moi, je suis allé, par exemple, avec Marine Tondelier, qui est la secrétaire nationale des écologistes, et Benoît Biteau, il y a quelques jours, dans l'Aubrac, dans le cadre de la campagne pour les européennes. On a été volontairement rencontrer des agriculteurs, non pas des bio, non pas des copains, etc., mais des gens qui n'étaient pas pour nous à la base, et on a bien pu démonter avec eux et on en a conclu lors de plusieurs visites et lors d'une soirée table ronde avec même des gens de la, la coordination rurale et de la FNSEA, que ce qu'on propose nous, ben, quelque part, ça leur parle aux agriculteurs et aux paysans, paysannes de terrain, ça leur parle. Manger mieux, vivre mieux, avoir un revenu décent, etc. Ils se sont dit que les écolos ne sont pas leurs ennemis, et on en est venu à nous à cette phrase qui dire que les écologistes sont vraiment les meilleurs amis des agriculteurs, et même les gens les plus extrêmes, les plus reliés à la FNSEA peuvent en convenir, j'allais dire, dans le secret de la discussion en tête à tête, si on peut dire. Mais évidemment, leur leader, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, qui est un gros industriel qui trafique sur la PAC, etc., eh bien, lui, il ne va jamais le reconnaître.
L'agriculture, c'est un gros sujet, ce sera un gros sujet de cette campagne. On le rappelle, bah, l'Europe, ça peut être les pesticides, ça peut être la PAC, ça peut être les accords de libre-échange qui structurent ou détruisent des pans entiers de l'agriculture. Et ce sera une conférence ce samedi à 16h30, justement, j'imagine, du député européen Bito, oui. À partir de 16h30, donc agriculture, alimentation. L'Europe peut-elle être juste? Je rappelle que toute cette journée sera au Mas d'Asile à partir de 15h. Ce sera vraiment un lancement de campagne pour les Verts, pour les Verts en Ariège, un moment festif aussi, peut-être pour donner un allant à une campagne européenne, on le sait, qui a du mal à passionner.
C'est sûr, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, là, l'enjeu européen est mal perçu par les gens. Et donc, traditionnellement, il y a déjà une grosse abstention. Et là, le fait que certains partis nationalisent le débat aussi n'aide pas à donner une vision plus globale et rendre la chose intéressante. Et donc, effectivement, Benoît Biteau, qui est un personnage haut en couleur, et qui connaît très très bien son sujet, étant paysan lui-même, éleveur bovin, va amener cette problématique-là et démontrer que les solutions écologistes existent, et notamment sur le point clé, un des points clés, c'est la PAC. Hein, chacun sait que la PAC aujourd'hui est pervertie par le fait qu'elle est versée en fonction du nombre d'hectares, et donc il y a une course effrénée sur le foncier pour avoir des hectares et des hectares, alors que dans un modèle qu'on appelle nous d'agriculture paysanne, avec moins d'hectares, on peut aussi faire vivre plus de personnes. Et donc nous, on prône notamment une PAC fléchée sur les nombres d'emplois qui vivent sur les exploitations, et évidemment sur une orientation vers le 100% bio, et en tout cas avec une progression de ce côté-là.
Ouais. Mais ça, on n'y arrive jamais, parce que ce discours-là, je l'ai entendu peut-être depuis maintenant 15 ans, de mettre de la valeur travail dans la PAC, etc., ce qui favoriserait par exemple la culture maraîchère, qui est peu consommatrice de surface, mais qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Donc aider cette main-d'œuvre, ça paraît très logique dit comme ça, mais on n'y arrive toujours pas.
On n'y arrive pas parce que c'est simplement une question de loi. Hein. S'il y avait une directive européenne qui réorientait la PAC, si le groupe Vert, qui est actuellement un groupe déjà assez nombreux, était plus important, et si les alliances de personnes qui se prétendent écologistes, je voudrais juste citer, parce que vous ne m'en avez pas parlé, mais ça pourrait venir sur la fameuse dynamique Glucksmann. Il faut savoir que Glucksmann, c'est la base d'un socialiste, et son groupe, peut-être pas lui, mais son groupe socialiste européen vote des lois, vote contre les directives européennes qui sont en faveur d'une PAC plus juste. Et donc on n'y arrive pas parce que le groupe Vert et ses alliés potentiels n'ont pas la majorité au Parlement européen. C'est ce qu'il faudrait réussir à faire. C'est vrai que les maraîchers, par exemple, sont de toute façon déjà exclus de la PAC. Les maraîchers ne touchent pas de PAC, tout comme les apiculteurs. Et alors qu'on sait qu'il y a des exemples en Ariège où des petites exploitations de 20 à 30 hectares peuvent faire vivre 4 ou 5 personnes en faisant des productions variées, de la valorisation, etc.
Et que on n'incite pas à ce type de modèle-là.
Ben non, c'est
la PAC actuelle, voilà, qui travaille à l'hectare, quand bien même les zones de montagne, qui a quand même été un progrès en 2014, mais qui favorise finalement tout ce qui est extensif.
Exactement. Je prends l'exemple encore une fois du président de la FNSEA qui est la caricature absolue de cette perversion, ben, qui lui possède des centaines d'hectares et touche des millions de PAC et sur laquelle il n'y a que 7 ou 8 salariés qui travaillent, avec en plus ce cynisme de découper son activité en plusieurs petites sociétés pour avoir le fameux bonus parce que c'est un peu technique, mais il faut quand même le savoir.
Si on a trop de surface, on c'est dégressif.
Voilà, il y a une prime aux 52 premiers hectares. Donc, si au lieu d'avoir une grosse exploitation de 800 hectares et on en a 8 de 100 hectares, on touche à chaque fois le bonus pour les 52 hectares. C'est d'un cynisme absolu. Et ce monsieur ne fait que, en plus de produire des produits mauvais pour l'humain, j'allais dire, il encaisse des millions et des millions de PAC, alors que des agriculteurs paysans, notamment en Ariège, touchent très très peu, quelques dizaines, 10, 20 000 euros, alors qu'ils se crèvent, j'allais dire, à faire vivre des petites exploitations et à faire vivre plusieurs personnes sur leurs exploitations.
Oui. L'électeur de gauche se trouve un peu perdu, je pense, devant l'offre, parce que, quelque part, on se réduit parfois à quelques mots politiquement. La France insoumise, c'est l'Europe sociale. Le PS, c'est l'Europe fédéraliste, globalisante. Mmh. Et vous, c'est l'Europe environnementale qui entend casser des logiques qu'on est tous d'accord pour défendre, mais de tous les côtés. D'une, comment faire la part des choses et comment se retrouver à voter écologiste le 9 juin prochain, Christian Lamens? Et de deux, est-ce que ça aurait pas été plus simple de se mettre ensemble et de grouper tout ça, parce qu'on entend bien que ces discours-là ne sont pas si éloignés que ça les uns des autres?
Oui, il y a plusieurs aspects dans cette chose-là. Bon, il faut.
Oui. C'était une question à tiroir.
Voilà, et je vais essayer d'en ouvrir au moins deux. Le premier, c'est que l'élection européenne, comme vous l'avez rappelé, c'est une élection à un tour, à la proportionnelle absolue. Donc c'est le moment, j'allais dire, de se faire plaisir autant pour les électeurs et électrices que pour les partis. C'est-à-dire, c'est le moment de pouvoir défendre vraiment le fond des programmes, le fond de la philosophie des programmes. Et donc, c'est pour ça que nous, en tant qu'écologistes, on est partis tout de suite, les premiers d'ailleurs, au mois de juillet dernier, avec une liste autonome et avec le vrai débat qui a traversé aussi notre parti, de savoir est-ce que c'est mieux de partir tous ensemble et puis d'affaire un certain score ou d'accumuler des pourcentages pour arriver à peut-être plus de députés. Bon, c'est un débat en tout cas que nous avons tranché dans ce sens-là. Et d'autre part, en ce qui concerne les programmes, ils sont quand même différents. Enfin, il faut, je l'ai dit tout à fait au début, mais le programme écologiste, justement, n'est pas à caricaturer sur un angle uniquement environnemental. C'est un projet global de société. Je veux aussi rappeler qu'il est anticapitaliste, qu'il est anti-mondialisation, qu'il a un gros volet justice sociale, et que donc, il faut vraiment nous défendre contre cette image, cette caricature qui perdure, comme quoi on est environnementaliste, les petits oiseaux, etc. Alors qu'on a un vrai programme qui a été adopté il y a peu de temps par notre parlement interne, qui fait plus d'une centaine de pages et que certainement personne ne va lire, mais qu'on va essayer de synthétiser avec des lignes forces. Et dans ces lignes forces, il y a vraiment les deux pôles, justice sociale et justice environnementale. Oui. Et donc, je dénonce, entre guillemets, nos concurrents politiques à gauche qui veulent nous enfermer dans cette case-là, alors que, et la preuve avec la venue de Priscilla Ludowski, qui est une figure des Gilets jaunes et qui était à la pointe du combat social. Donc, et dans notre liste, on n'a pas que Priscilla, on a d'autres candidates et candidats en tête de liste qui sont vraiment sur la fibre sociale. Notre programme marche vraiment sur ces deux jambes.
Christian Lamens, votre liste, elle pourrait faire 60% des voix en France. Si en Europe, il n'y a pas une dynamique globale, hein, je rappelle, il y a quand même 27 pays, que ça servirait à rien, finalement. C'est aussi ça, la problématique européenne, avoir constituer une majorité en Europe, c'est compliqué. On est sur du compromis. Et on se demande aussi, que pèse l'écologie politique à l'échelle européenne ?
Ben, elle a pas mal pesé quand même, hein, parce que effectivement, avec nos presque 80 députés actuels sur 720, bon, ça fait un peu moins de 10%, et ça permet justement de commencer à travailler sur des coalitions, parce que voilà, c'est une culture qu'on n'a pas tellement en France et qu'on a plus dans d'autres pays, mais en Europe, rien ne peut se faire sans travail avec les autres partenaires, et donc. Il faut arriver à ça. Et c'est vrai que malheureusement, actuellement, il y a aussi la petite ou grande musique de l'extrême droite qui monte dans beaucoup de pays. Et on craint que la majorité du Parlement européen passe entre droite et extrême droite à des groupes vraiment anti-écologistes et anti-sociaux par rapport à la vie des gens la vie des gens au quotidien. Et donc, on ne se rend pas compte à quel point. Que ce soit en France d'ailleurs ou dans les autres pays européens, l'extrême droite est un danger. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire il y a une tentation d'extrême droite, on n'a jamais essayé, etc. Mais si par malheur ils arrivaient au pouvoir, ben tout le monde pleurerait gravement parce que c'est vraiment leur projet, c'est une société étriquée, fliquée, avec privation de liberté, etc. Et malgré leur discours populiste qui semble imprimer actuellement, ils arrivent au pouvoir dans différents pays d'Europe, et ce sera dramatique. Et je voulais justement venir sur un autre point, c'est que l'Europe, il faut regarder les votes des groupes, c'est-à-dire que il y a eu par exemple la loi sur la restauration de la nature qui a été portée par les écologistes et qui a été petit à petit rognée par les coalitions de droite et d'extrême droite, parce que là on le voit très clairement. Moi je regarde souvent les tableaux de vote, ils sont publics, sûrement pas grand monde ne le fait, mais quand on entend un discours que ce soit du socialiste Glucksmann ou des macronistes, etc., ben après il faut aller voir leur vote et leur vote de leur groupe européen. Et c'est là qu'on s'aperçoit exactement de ce que sont leurs politiques.
Vous voulez dire qu'il peut y avoir des incohérences entre ce que l'on porte à l'échelle nationale devant,
absolument,
voilà, devant le peuple français, ce que l'on va ensuite porter dans le cadre des coalitions auxquelles on appartient en Europe ?
Exactement. Il suffit de regarder un discours. Bon, je ne vais pas m'acharner sur Glucksmann, mais c'est quand même quelque chose qui est frappant. On n'entend parler que de ça. Samedi encore, la une du journal Libération, la petite musique Glucksmann qui monte, etc. C'est un truc complètement monté, je ne vais pas dire par les médias. Parce
vous trouvez que c'est en train de se fabriquer ?
C'est complètement fabriqué parce que les grands médias nationaux, autant la dernière fois, avaient plus ou moins pris les écologistes comme un champion potentiel, autant cette fois-ci ils ont choisi Glucksmann parce qu'ils ne veulent pas raconter deux fois le même récit. Ça s'auto-alimente, c'est-à-dire ils montent dans les sondages, donc les gens pensent que c'est peut-être bien, donc ils remontent dans les sondages et ainsi de suite. Alors que quand on regarde les votes de son groupe socialiste au niveau européen, c'est dramatique. Enfin, ils ont voté pour la nouvelle loi sur l'immigration, ils ont voté contre certaines lois, certaines dispositions protectrices de l'environnement, de l'agriculture, etc. Donc voilà, les sociaux-démocrates, ils font un paquet un peu central avec le groupe Renew. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle la politique politicienne, mais en fait, à l'Europe, c'est comme ça que ça marche.
La politique de compromis aussi, vous l'avez
voilà,
dit.
Voilà, oui, oui.
Les Verts ont longtemps fait groupe commun avec les libéraux, je crois, en Europe. Ce n'est plus le cas, mais...
Oui et non, ça a été un peu... Bon, c'est le cas, par exemple, en Allemagne, qui a aussi une culture de compromis. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se pose
parfois
la question...
Parfois, c'est dur à lire d'ici.
Oui, complètement, oui, parce que on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux rester dans son coin et bagarrer sans jamais avancer, ou alors faire un petit pas de compromis pour faire avancer quelque chose d'important en attendant peut-être d'être au pouvoir plus majoritairement. Donc ça, c'est des grandes questions aussi de stratégie politique, et l'Europe, c'est vraiment le théâtre de ça. Alors, ce qui peut paraître aussi pour les Françaises et les Français un peu de la magouille, de la politique politicienne, mais c'est pas le cas du tout, parce qu'il faut voir que les députés européens écologistes travaillent vraiment au quotidien Et je voulais aussi citer deux études là, qui sont parues il n'y a pas longtemps. L'une, c'est le classement des députés européens sur leur présence en séance, sur le travail dans les commissions, sur le nombre de projets de loi déposés, etc. Et la première personne qui a, enfin celle qui a la meilleure note de 19 sur 20, c'est une écologiste, Caroline Rouze, une écologiste française, enfin qui est belge d'ailleurs, mais qui fait partie du groupe français. Et une deuxième étude là, qui a été sortie par les 5 ONG environnementales très très importante en Europe, qui a analysé tous les votes et tout le travail et qui a classé les écologistes, le groupe vert écologiste au Parlement européen, comme le premier groupe le plus en accord avec toutes ces ONG. Et puis le Rassemblement national, note sur 20, il y en a qui arrivent à 5, il y en a qui arrivent à 0. Quoi. Enfin, donc c'est vraiment quelque chose dont il faut se rendre compte. C'est pas évident parce que c'est pas hyper passionnant, il faut regarder tout ça, il faut voter de manière éclairée. Et malheureusement, dans notre monde d'aujourd'hui, si on peut dire, ça ne marche qu'à coup de punchline, qu'à coup d'affect. Y a aussi un gros problème là-dessus, hein, c'est que les gens, s'ils ne creusent pas un peu plus leur conviction et s'ils ne forgent pas un peu mieux leur raisonnement, fonctionnent sur les punchlines, etc. Et nous, chez Les Verts, on n'aime pas ça, les punchlines, dans le sens où on dit qu'à questions compliquées, réponses compliquées, il faut prendre son temps, il faut expliquer. Il faut bien démonter le truc et prendre le temps de voir quelles sont nos réponses. Donc on est un peu en décalage, c'est vrai, par rapport à ce fonctionnement médiatique. Mais on espère que quand même les électeurs et les électrices ne sont pas idiots et donc ils vont se pencher sur la question et voir que l'écologie, c'est vraiment la réponse à beaucoup, beaucoup de problèmes, si ce n'est à tous.
Si ce n'est, y compris peut-être locaux. Christian Lamaze, je rappelle, vous êtes 18e sur la liste des écologistes donc à ces élections européennes du 9 juin. Il y aura réunion publique, grande journée, ce sera ce samedi au Mas d'asile à la salle de la mairie. Juste revenir un petit peu en arrière, ce qui est très contre-intuitif quand on parle d'Europe, et peut-être ne devrais-je pas le faire, mais c'est vrai que, vous l'avez dit, les sujets nationaux ont tendance à pas mal occuper les débats et l'esprit des candidats et des potentiels électrices électeurs. Les sujets locaux aussi, et c'est vrai que l'écologie... Et c'est vrai que l'écologie n'est jamais très loin quand on parle du lac de Montbel, quand on parle des ours, quand on parle de la crise agricole, on l'a dit, et que vous êtes attendu au tournant sur quasiment tous les sujets, sur la déviation de Salvaire empêchée pour des questions environnementales. Voilà, souvent l'écologie est un petit peu au centre de tous les maux ici en Ariège. Comment est-ce qu'on fait campagne pour l'Europe dans un contexte comme celui-là?
Je me permets de vous corriger sur l'expression « l'écologie est au centre de tous les maux ».
En tout cas, pour beaucoup d'acteurs politiques département. Je fais les conférences de presse, je vous assure, Christian Lamaze. Le savez très bien.
Oui. Non, mais moi, je transformerai l'expression en disant « l'écologie est au centre de toutes les réponses ». C'est-à-dire que si on veut bien regarder les choses, si on prend problème après problème, ce dont vous parlez, là, on pourrait même parler aussi de la centrale photovoltaïque flottante sur le lac de Mondeli.
Alors là, je crois que vous êtes tous à peu près d'accord.
Tous à peu près d'accord, peut-être pour différentes raisons, mais espérons qu'il y aura une convergence des luttes, comme on dit, contre ce projet écocide, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est tout le problème de notre communication peut-être, et puis de la perception que les gens en ont, mais l'écologie est la réponse à toutes ces questions. Je veux dire, Montbel détourné de l'eau pour arroser du maïs, et on va dire l'écologie c'est un problème. Non, l'écologie c'est la solution, parce que l'eau il faut l'économiser, l'épargner. On l'a fêter d'ailleurs cette semaine les 50 ans du fameux verre d'eau de René Dumont. Il faut se rappeler qu'il y a 50 ans, en 1974, il a tenu un verre d'eau dans la main. Il a dit « je bois ce verre d'eau ». Dans 50 ans, il n'y en aura plus.
Allez, René Dumont, pour les plus jeunes auditrices, auditeurs, le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle en France.
Donc ça fait déjà 50 ans. On a coutume de dire que ça fait 50 ans qu'on a posé les bonnes questions et amené les bonnes réponses. Mais bon, malheureusement, ça ne percute pas. Donc si on prend Montbel...
Aujourd'hui, beaucoup de gens disent « René Dumont, finalement, il avait raison à cette époque-là », mais sans pour autant vous rendre justice dans les urnes.
Voilà, c'est vraiment le problème. C'est une question que nous, on se pose quotidiennement. Comment se fait-il que y a ce qu'on appelle les vents contraires, c'est-à-dire, on en a déjà parlé, mais c'est ce fameux déni face à la complexité de la situation. Quand on dit à une personne il faudrait consommer moins, il faudrait être plus sobre sur un certain nombre de choses, en fait c'est pas punitif tout ça, c'est pour vivre mieux. Notre programme des présidentielles dernières s'appelait Vivre mieux. Et ça reprend un peu toutes les choses qui sont positives dans l'écologie. Parce que moi, j'appelle pas ça punitif de manger bio, que les enfants mangent bio à la cantine, qu'il y ait moins de pollution atmosphérique qui engendre des morts dans les villes, que les agriculteurs aient un meilleur revenu et vivent mieux et ne se suicident pas. J'appelle pas ça punitif. Enfin, on pourrait citer un maximum d'exemples comme ça où l'écologie, c'est vraiment des réponses positives. Mais il faut prendre les problèmes à bras le corps et que chaque individu se dise quelle est ma part dans tout ça, et aussi ne sois pas effrayé par le fait de dire moi si je fais ma petite part, de toute façon ça change rien parce que les Chinois polluent à tour de bras, les États-Unis foutent des millions des milliards dans d'autres
choses.
Voilà, et c'est là qu'est le problème aussi, on est confronté vraiment à un problème, j'allais dire presque métaphysique, c'est-à-dire aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire et est-ce que ce que je fais sert à quelque chose, et là c'est à chacun de répondre à la question. Mais en tout cas le vote écologiste, c'est vraiment une des choses qu'on peut faire, c'est influer au niveau où les choses peuvent vraiment se passer, au niveau de l'Europe, pour que ce fameux vivre mieux advienne.
À noter, j'avais vu une étude que faire des petits gestes, c'est souvent des choses qui permettent, alors il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau de chimique qui permet de résoudre le mal-être que l'on va avoir par rapport à l'éco-anxiété qu'on se nourrit au fur et à mesure. Se faire soi-même les petits gestes, c'est des fois se faire du bien aussi psychologiquement. Peut-être mettre un bulletin écolo dans l'urne, peut-il y participer? Ça, ce sera le 9 juin. La réunion publique, donc, comme on dit en Ariège, ce grand moment de lancement, ce sera ce samedi 27 avril de 15h à 22h à la salle de la mairie du Mas d'Asile, avec un débat à 15h sur la justice sociale, avec l'Europe, bien sûr, en exergue, l'agriculture à 16h30, un micro ouvert, donc moment d'échange animé par votre secrétaire départemental Romain Ecofard, concert avec Marna Maille à 19h, c'est de la chanson française, les prises de parole des différents candidats et politiques à partir de 20h, et puis, alors ça, il n'y a que les Verts pour nous faire ça, un baltrade à 21h avec Garrick pour passer un moment de partage ensemble. C'est ouvert à vos sympathisants. Pas que, parce que j'imagine que l'idée, c'est de phosphorer sur une journée comme ça, Christian Lamince.
Tout à fait, oui, c'est un moment de venir nous voir. On a appelé cette journée, plutôt que de chercher un titre pompeux, on l'a appelé tout simplement...
L'Europe des écolos, parlons-en.
Voilà, l'Europe des écolos, parlons-en, c'est-à-dire qu'on peut venir nous parler. D'ailleurs, on a choisi des formats un peu différents, c'est-à-dire que c'est des cercles de parole, c'est pas des conférences doctorales, ça sera en rond, chacun pourra parler, et nos candidates et candidats sont vraiment des personnes accessibles, et ce sera sans tabou, on pourra vraiment en parler. Donc c'est vraiment l'occasion, même pour des gens, le but justement, parce que réunir nos sympathisants et réunir les gens qui votent pour nous, c'est une chose qu'on fait avec plaisir, parce que c'est toujours sympa, mais nous ce qu'on souhaite, c'est que des gens viennent vers nous pour nous poser des questions, pour lever des objections et pour se rendre compte que l'écologie, c'est vraiment une réponse à beaucoup de choses. Alors, et juste un petit mot pour finir sur le bal de Garrigues. Garrigues, c'est pas un bal trad, c'est un bal trad actuel. C'est-à-dire que c'est pas rétrograde, c'est vraiment de la super musique, à la fois dansante sur le plan trad, mais qui peut s'écouter aussi comme un concert. C'est un super groupe d'envergure nationale qui vient de Sommières, près de Nîmes, et qu'on espère aussi pour clôturer de manière très conviviale cette journée. Et si des gens veulent venir juste au bal à 21h, qu'ils viennent juste une demi-heure avant, écouter un tout petit peu de discours écologique, ça peut pas faire de mal.
Et ce sera à 21h pour le concert et un petit peu avant pour écouter. Et c'est bien évidemment en entrée libre. Les infos sur la campagne des écologistes sur écologie2024.eu. Il y aura bien sûr restauration buvette sur place et la campagne ne s'arrêtera pas là. J'imagine qu'ensuite vous battrez le pavé, tracterez sur les marchés. Christian Lamince,
tout à fait.
Bâton de pèlerin en main. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des bâtons de pèlerin chez les Verts, mais...
Non, mais on a une série de tracts. Là, j'en ai amené un qui s'appelle « Une autre agriculture est possible », mais on en a aussi d'autres sur différents sujets. Et donc, on va aussi, comme traditionnellement, j'allais dire, dans les campagnes, faire du tractage sur les marchés, faire du porte-à-porte. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a... Il y a une page Facebook, il y a un site, etc., où on peut aussi aller voir maintenant dans notre monde numérique, j'allais dire, beaucoup de gens ne se déplacent plus, mais peuvent trouver toutes ces informations et peuvent engager le dialogue avec nous aussi via les réseaux sociaux.
Allons-y. Merci beaucoup Christian Lamince. Bon week-end donc ce 27 avril au Mas d'Asile à partir de 15h. Bonne campagne pour vous auditrices, auditeurs. Vous voulez réagir à ce que vous avez envoyé, poser des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire nous aussi en passant par internet, soit par le site de la radio, radio-transparence.org. Vous avez divers boutons pour réagir ou nous écrire. Vous pourrez aussi réécouter ce moment en podcast, les réseaux sociaux Facebook, Radio Transparence, Instagram Transparence 93.7, et puis à l'ancienne, le téléphone 05 61 65 50 00, parce que c'est dans les vieux chaudrons qu'on fait les meilleures soupes. Merci beaucoup Christian Lamince, à très bientôt et sur l'antenne de Radio Transparence.
Merci à vous.
Au revoir.